Vous écoutez
RMC.
Revenons à... Exactement. Donc Blackburn est leader de la première ligue à ce moment-là. Et oui. Mais en cas de victoire à Crystal Palace, United et Cantona repasseraient en tête. Donc dans cette course au titre, comme je vous le disais, finalement très plus serré que ce qu'on pensait. Il faut savoir aussi, pour replacer le contexte, d'Eric Cantona à ce moment-là, c'est le meilleur joueur de la première ligue sans aucun doute. Il est vraiment à son sommet, je pense, individuellement et dans une équipe. Dans son équipe collectivement aussi, sa relation avec Sir Alex Ferguson, et vous le verrez avec l'anecdote que je raconterai à la fin de l'histoire, assez incroyable d'ailleurs. Voilà, il est vraiment à son sommet. Le problème, c'est aussi qu'il est tellement fort qu'à chaque match, que ce soit à domicile et encore plus à l'extérieur, il est la cible des défenseurs adverses forcément, mais aussi des supporters adverses, des entraîneurs adverses sur le banc. Voilà, tout le monde essaie soit de le faire disjoncter d'une façon ou d'une autre, soit en tout cas de lui mettre assez de coups pour qu'il ait le moins d'influence possible sur les rencontres. Et ce soir-là, c'est un défenseur central anglais qui s'appelle Richard Shaw, qui a deux pieds gauche, qui est grand, qui est même pas rapide, mais qui met beaucoup de coups et qui, pendant toute la première période, va mettre des coups à Cantona sans arrêt. Dès que le ballon est en l'air, il lui met des coups. Dès que Cantona veut contrôler le ballon et qu'il est dos au but, il prend des coups. Voilà, Shaw lui met coup après coup après coup. Jusqu'à un moment, en début de seconde période, où Shaw lui met un coup, et là, Cantona se retourne explose, mais je l'ai dit déjà là. Voilà, et l'emplâtre, exactement. Il perd son sang-froid, il l'emplâtre, il prend carton rouge en début de seconde période, alors que le match est à 0-0. Et Cantona prend le carton rouge, il sort, et donc il va sur le côté du terrain, et il marche avec l'un des membres du staff de Ferguson pour retourner vers le tunnel et en rentrer au vestiaire. Et là, donc, il se retrouve assez proche, finalement, des supporters de Crystal Palace qui sont là. On voit bien certains qui l'insultent un petit peu. On voit quelques gestes avec les doigts, etc. Et puis là, il y a un mec avec un manteau noir en cuir qui va descendre d'assez haut finalement dans les tribunes et qui va insulter Cantona un peu plus que les autres. Alors au début, c'est que des fucking this, fucking that, espèce d'enculé de français, des choses comme ça. Il est assez tard, Gilbert, je peux me permettre les gros mots.
Ah ouais, c'est surtout qu'il faut que tu dises exactement
ce qui s'est passé. Surtout, il le faut pour l'histoire.
Donc la véracité de l'histoire, elle passe par là.
Donc vas-y.
Exactement. Donc ça commence. Voilà, ça commence. Merci Daniel. Ça commence avec des putains de français, espèce d'enculé de français. Mais juste ça suffit. Cantona, ça le dérange pas trop. Il les regarde, il les toise un petit peu du regard. Il continue sa route.
Il a jamais dit que ça l'importait d'être français. Ça pouvait pas le toucher.
Ouais, de toute façon, il était anglais lui.
Il était anglais. Exactement. Il le disait tout le temps.
Et à un moment, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et ce Matthew Simons, à un moment, en revanche, va s'attaquer à la mère de Cantona. Et là, quand il lui dit, ta mère est une pute de française. Là, le mot pute fait exploser Cantona complètement et il se retourne. Et ça, on touche pas aux mamans. Et il se retourne et là, se jette dans la tribune de Selhurst Park en faisant un coup de pied, donc avec son coup de pied droit, kung-fu, vers le supporter de Crystal Palace, donc Matthew Simons, qui, on le saura plus tard, était quand même quelqu'un d'extrême droite, qui était raciste et pas simplement contre les Blancs ou contre les Français, mais contre un peu tout le monde. Et après le coup de pied, il y a aussi des coups de poing, et ça part dans tous les sens, ça pleut dans tous les sens, gros attroupement, forcément. Tout le monde sépare Cantona, il a les yeux, mais vraiment exorbités. C'est-à-dire que c'est même plus le Cantona qu'on connaissait nous en France, qui était capable de faire des coups de folie. Mais là, c'est même plus un coup de folie. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu faire avant. Malgré tout, il arrive à retourner jusqu'au vestiaire avec l'un des membres du staff de Ferguson et de Manchester United. Il s'assoit dans le vestiaire et là, il ne dira plus un mot. Plus un mot. Jusqu'à ce qu'il rentre à Manchester vers 4h du matin. Le match se poursuit, donc à 10 joueurs contre 11 pour United. United ouvre le score. Brian May qui marque le premier but et qui se fait égaliser dans les dernières secondes du match pour finir un partout. Et à ce moment-là, tout le monde rentre au vestiaire. Et Cantona est là, toujours assis au même endroit sur son banc, dans le vestiaire des visiteurs de Selhurst Park. C'est un petit vestiaire tout pourri à l'époque, en 95. Il a enlevé son maillot. Et là, il est complètement silencieux. Personne ne ose lui adresser la parole, personne ne lui donne une petite tape, tout le monde le laisse tranquille, il est tout seul dans son coin. Sir Alex Ferguson arrive, et là, qu'est-ce que fait Sir Alex Ferguson? Son meilleur joueur vient d'être expulsé pour un coup de folie incroyable, un coup de kung-fu, un coup de pied, des coups de poing. Il sait très bien qu'il va prendre très cher. Et là, qu'est-ce qu'il se met? il dit à Peter Schmeichel, mais Peter Schmeichel, mais t'es qu'un gitan, tu fais n'importe quoi, t'as déconné, comment on fait match nul aujourd'hui? Et chaque joueur, un par un, assis dans le vestiaire, qui ont pris parti à cette rencontre, il va les défoncer. Il va les tuer un par un. Tout le monde, peu importe le statut, peu importe quel joueur c'est, un par un. Un par un. Et il arrive à Brian May. Et Brian May, il lui dit, t'as marqué, mais regarde sur le but qu'on encaisse, c'est toi qui est au marquage? C'est toi qui est au marquage. Et Brian May dit, non, c'est pas moi, c'était Eric qui était censé prendre le joueur au marquage. Et là, Ferguson se retourne vers Cantona et lui dit, Eric, je suis quand même un peu déçu. Donc, il venait d'insulter tout le vestiaire. Hein. Il avait insulté tous les joueurs un par un. Et il se retourne vers Cantona et lui dit, Eric, je suis quand même un peu déçu de ton comportement ce soir. Et c'est tout. C'est tout ce que Ferguson, Sir Alex Ferguson, le grand Sir Alex, va dire à Cantona. Parce qu'il savait très bien que finalement, fallait pas l'accabler plus qu'il n'était. Tout le monde voyait bien sur son visage qu'il était déjà assez accablé comme ça. Mais après avoir insulté chaque joueur du vestiaire, il se retourne vers Cantona pour simplement lui dire, ce soir, tu m'as déçu quand même.
On a retrouvé l'archive, en Angleterre, évidemment, de ce qui s'est passé. Évidemment, ça, c'est pour les gens totalement bilingues.
On n'entend pas là. Oui. Ah.
Voilà, donc il explique l'expulsion et puis après il est impliqué dans quelque chose avec les supporters.
On ne l'a pas entendu, Gilbert. J'espère que les auditeurs l'ont entendu.
Bah non, on l'a entendu. On l'a pas entendu.
D'accord.
L'a pas entendu.
Bon, alors, on l'a mal entendu.
Non, on l'a bien entendu. Alors, moi, quand même, un mot sur ce kung-fu. Je pose la question d'abord à un spécialiste, Eric Dimeco.
Sur la qualité du kung-fu.
C'est quand même un geste qu'il a un peu raté, non? Toi qui étais un spécialiste.
Mais je sais, mais non, mais déconne pas. Non, mais on ne va pas faire la connerie. Tu te rappelles quand même que quand Patrice Evra fait son kung-fu aussi on est allé interviewer un prof de karaté ou un international de karaté quand même.
Pascal Gentil.
Pour savoir quelle était la qualité du geste.
T'as rappelé là, mais Jérôme, on était ensemble dans le vestiaire.
Oui, c'est vrai.
Les bras me sont tombés. J'ai dit, mais vous décollez
pas.
Vous décollez pas. Non, mais heureusement, les gars.
Daniel, on s'en lave les mains, nous.
Voilà, non, mais vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Nous, on avait fait quand même, on avait interviewé.
Moi, j'ai attendu que t'arrives pour te poser la question à toi.
Non, mais qu'est-ce que je raconte à ça? Il a pété un câble. Il a été lourdement puni derrière, si je me souviens bien. Je crois qu'il reporte plus le maillot d'équipe de France derrière, c'est ça? C'est son dernier match d'équipe de France, c'était juste avant. Derrière, je crois, quand il finit sa suspension, Aimé va le voir pour l'Euro 96 et pour le faire revenir. Lui demande qu'il le fait revenir que s'il joue avant ça. Eric,
non, mais blague à part, ça marque la fin quoi, pour lui. Voilà, en fait.
Pas la fin, puisqu'il revient quand même, il est encore bon quand il revient, Julien, en club.
Oui,
quand il revient au club,
il est bon.
Effectivement, il revient en
septembre 1995.
Il y a plusieurs faits dans la carrière de Cantona de dinguerie. Il y a quand il jette le maillot, t'étais là toi, Eric?
Oui, bien sûr, j'étais là. Ce match, je jouais ce match amical.
Un match amical avec le club où il jette le maillot, puis il se casse la torse en avant, allez tous vous faire foutre.
Et j'étais même, tu sais quoi, j'étais même. Quand il joue à Nîmes et quand il lui arrive son histoire avec l'arbitre, j'allais le voir jouer à Nîmes de temps en temps. Et quand il fait ça, je suis au match.
Ah voilà. Bon. C'est la carrière de Canto, outre ses qualités de footballeur, c'est aussi ça, c'est les pétages de plomb.
À OCR, puisqu'il avait aplâtré, c'est qui avait aplâtré? Bruno Martini?
C'était entre coéquipiers.
Voilà,
là, c'était,
pour reporter
le but. Non, il y a une histoire avec Jean-Claude Lemoux.
Ah, ça c'est arrivé aussi quand il était à Montpellier, en effet.
À Montpellier.
Donc en fait, dans chaque club, il s'est battu avec un mec, en fait. C'est ça l'histoire.
À Marseille, il s'est jamais battu avec personne. Par contre, il y a eu l'histoire du maillot. Moi, j'ai joué avec lui à Marseille en équipe de France. Il a toujours été super apprécié dans le vestiaire à Marseille et en équipe de France aussi. Hein.
Son dernier match avec l'équipe de France, il le joue le 18 janvier 1995, c'est-à-dire pile une semaine avant.
Ah, voilà, c'est ça, c'est ouf.
C'est
Pays-Bas France. À Utrecht, on gagne 1-0. J'y étais.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Décidément, t'es partout. Toi.
Oui, puisqu'après le match, on était resté à Amsterdam.
Marrant, quoi, Utrecht. Dès qu'il y a un truc louche.
Et on était resté à Amsterdam pour entrer dans nos clubs respectifs avec Canto. Il y avait JPP et Lolo Blanc. Et on avait passé une bonne soirée. Je me souviens beaucoup.
Ah, oui, tu m'étonnes.
Ouais, Amsterdam, dans la ville pour faire la fête après les matchs.
Ah oui, c'est mieux Amsterdam qu'Utrecht, toi.
Oui.
Voilà, Julien, pour revenir à l'Angleterre, aujourd'hui là, Cantona, ça reste quand même la légende de Manchester plus que le mec qui a mis un coup de pied à un supporter quand même, non?
Ah oui. Bien sûr, mais si tu veux, ça a encore plus amplifié sa légende finalement en Angleterre, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Regarde, 25 ans après, les Anglais en ont beaucoup parlé lors du 25e anniversaire. Tous les ans, de toute façon, à la date, à cette date-là, ils en parlent. Et puis, ça va avec le personnage qui, finalement, quand il est arrivé en Angleterre, tout s'est plutôt bien passé. Mais ils entendaient encore ces histoires venues de France, comme Eric et toi, vous venez de le décrire. Et ben ça leur a aussi à rajouter à sa légende anglaise. Après, pour les Anglais, plus que tout, c'est l'homme qui a révolutionné le football anglais déjà, qui a rendu ses lettres de noblesse au football anglais, qui a apporté le football anglais sur une nouvelle dimension. Vraiment, c'est lui qui a tout changé finalement en Angleterre pour beaucoup de gens, beaucoup plus que ce kung-fu. Mais le procès avait été suivi par un pays tout entier en savant qu'est-ce qui va lui arriver. Il avait quand même pris 14 jours de prison.
C'est là le chalutier, c'est là, non? C'est quand le moite le chalutier,
c'est ça, exactement. C'est donc après, il fait appel. Mais au début, quand il prend les 14 jours de prison, il dit à son avocat.
Les mouettes et le chalutier, ça c'est légendaire.
Oui, quand même.
On écoute.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.
Et tu sais quoi, Gilbert? Eh ben, il paraît que cette année, c'était le sujet du bac, et ben, on l'aura pas, malheureusement. Parce que ça, c'est, je veux dire, il faut réfléchir sur celle-là.
Oui.
Tu peux traduire, Julien?
Oui, bien sûr. Donc, c'est quand les mouettes suivent un chalutier ou le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines.
Qu'elles espèrent qu'on va leur jeter des sardines.
Vas-y,
Julien.
La petite histoire de cette anecdote, c'est que quand il prépare l'appel, donc justement avec ses avocats de Manchester United, il leur dit à un moment est-ce que vous pensez qu'à la fin je pourrais dire quelque chose? Alors ils disent bah oui, normalement tu peux. Il dit d'accord. Il dit comment on appelle les gros bateaux là qui vont sur la mer? Alors ils disent un chalutier. Ah oui, c'est ça, chalutier, d'accord. Et donc il le voit écrire sur un bout de papier. Et comment vous appelez en anglais les oiseaux là les mouettes? D'accord, les mouettes. Et après, sardine étant le même mot, sardine, c'était facile pour lui après. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'il a préparé. Donc, je pense que. Bah oui. Et je pense que. Enfin, les Anglais continuent toujours à chercher aujourd'hui, hein, même 25 ans après, ce qu'il a voulu dire.
Bah, pourtant, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais compris qu'on croit que c'est si mystérieux. C'est super clair.
Bah oui, c'est très clair.
Non, c'est pour les tabloïds anglais, je pense.
Ouais, c'est pour vous dire. Vous venez, en fait, me voir parce que vous pensez qu'il va y avoir à manger avec moi, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est l'odeur du sang de Domenech.
C'est ça, exactement.
Exactement.
C'est un peu ça. Exactement.
Mais tu sais.
Et donc il avait pris 4. Vas-y, Eric. Vas-y.
Non, 8 mois il a pris, non?
Alors d'abord il prend donc ses 14 jours de prison, et au moment où ça tombe, il appelle la famille à Marseille, et il est à deux doigts de dire à ses avocats: vous savez quoi, j'en ai marre de toutes ces histoires, j'en ai marre de tout ça, je vais accepter et je vais faire 2 semaines en prison, et comme ça après ce sera réglé. Et finalement ils arrivent à le convaincre que pour des millions de raisons c'est pas une bonne idée d'aller en prison. Donc ils finissent par faire appel. Au lieu de ça, il fait 120 heures de travaux d'intérêt généraux, où finalement il va donner des cours de foot à des enfants défavorisés de Manchester, ce qui est très bien, ce qui lui va très bien. Et puis et donc il fait cet appel et il est suspendu, tu as raison, 8 mois, et puis après même 9 mois de... Voilà, exactement. Il revient en septembre 95.
Mais souvenez-vous quand même comment son sponsor de l'époque, qui a toujours été son sponsor d'ailleurs, Nike, qui fait une pub où il est adossé à un mur, tout désolé, où il raconte...
Bien sûr, ça a servi son marketing.
Exactement. Et il y avait...
C'était avant qu'il veuille vider les banques. Hein, c'était quand il mettait l'argent dedans.
Et dans cette pub, il avait rappelé aussi, on a oublié, le sac à merde à Henri Michel quand même.
Bien sûr, qu'il a
suspendu. Et oui, il en parle dans ce pub de Nike, Eric d'ailleurs. Nike, ils étaient énormes pour les pubs à l'époque. Ils surfaient même sur les écarts de leurs joueurs emblématiques comme l'était Eric.
C'est pas qu'ils surfaient, c'est qu'ils construisaient le marketing sur le côté rebelle.
La plus belle pub
d'ailleurs de Nike, dont les Anglais parlent toujours, c'est celle qui disait, avec une photo d'Eric et de son numéro 7 avec le col relevé: 1966 est une grande année pour le football anglais. C'est l'année où est né Eric Cantona, plus que l'année où ils ont remporté la coupe.
Là où c'est énorme avec Nike, c'est quand même, il y a pas beaucoup de joueurs qui, une fois leur carrière finie, continue à être l'emblème de Nike. Souvenez-vous de la fameuse pub de Nike dans la cage là, avant je sais plus quelle Coupe du Monde, où les joueurs Nike vont jouer contre les diables là. Vous vous souvenez
de les joueurs phares de l'époque,
je crois qu'Eric jouait encore à l'époque, et derrière il était un maître de cérémonie, c'est-à-dire il avait arrêté de jouer, mais c'est lui qui gérait l'équipe des trucs là. Enfin, c'est dingue, il a fait beaucoup de pubs derrière.
Excusez-moi, mais la plus belle pub de Cantona, c'est la pub Bic sous la douche.
Ah oui. Avec son frère, d'ailleurs. Il a même fait avec son frère.
Big Orange.
Avec son frère, ouais.
Avec Jojo. Ouais.
Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y en a plus des comme ça. C'était cul.
Et juste pour finir, Gilbert, on parlait de la. De l'histoire, on parlait tout à l'heure de sa légende et de son héritage aussi. Finalement, le plus beau dans cette histoire, c'est que quand il revient le 1er octobre 95 dans un derby en plus contre Liverpool, où il fait une passe d'aise sur le premier but, et quand son équipe est menée 2-1 en fin de match, il marque le penalty pour faire 2-2. Et Eric, tu en parlais après, tout à l'heure, en disant qu'il était bien revenu après. Ils sont champions cette année-là, donc 95-96, où il marque 14 buts dans la saison, donc après avoir raté les deux premiers mois de la saison, ils font même le doublé puisqu'il marque en finale de la Coupe d'Angleterre encore une fois contre Liverpool. Et voilà, il est revenu encore plus fort qu'il l'avait été les 8 mois avant. Et pendant ces 8 mois d'absence, il est notamment allé chasser à Hereford chez des amis de directeur de Manchester United. Même son père venait de Marseille pour aller avec lui à la chasse. Il a fait autre chose que du football. Il s'est vraiment vidé la tête. Et je pense que ça lui a permis de revenir encore plus fort pour les deux ans et demi qu'il aura après avant de prendre sa retraite.
Merci Julien.
C'était le fils de Sir Alex, Eric. Et pour ceux, parce que à l'époque, on voyait les buts le dimanche au soir, puisqu'il n'y avait pas autant de matchs comme on les voit aujourd'hui. On ne pouvait pas se rendre compte de ce qui représentait là-bas. Moi, j'ai fait son jubilé, du coup. Enfin, j'ai pas joué, mais j'ai participé. C'est dingue. Le jubilé d'Eric à Manchester, c'est dingue. J'avais jamais vu ça. C'est quand tu te racontes, les mecs chantaient tous la Marseillaise pour faire chanter tout un stade de la Marseillaise en Angleterre.
Surtout les Anglais, ouais.
Il faut le faire. mais même encore aujourd'hui, puisqu'avec Jérôme, on y va de temps en temps, voilà.
Il chante sa chanson encore, hein.
Ouais, mais il chante sa chanson. Dans toutes les échoppes qu'il y a autour du stade, il y a toujours le maillot de Cantona.
T'as le drapeau avec Cantona, avec King, le
truc. C'est impressionnant.
Merci Julien.
Merci à vous.
Merci, bonne soirée. C'était l'histoire de Canto en 95. Voilà.
Et aujourd'hui, il y a peu, il fait un clip avec Liam Gallagher sur son dernier morceau où il fait le roi, alors que Gallagher est quand même un fan de City, invertébré, comme dirait l'autre. Vous n'avez pas vu ce clip ?
Si, moi je l'ai vu.
C'est merveilleux. Regardez, merveilleux. Morceau à la Lennon, merveilleux.
Sa dernière vidéo, c'est pour soutenir le professeur Raoult. Tu l'as vu celle-là ?
Aussi.
Ouais, celle-là, elle est moins.
Et il est bien, c'est un de ses potes. Voilà. C'est un de ses potes.
Oui.
Dans quelques instants, on revient et on va parler de l'OM. Il y a un lien entre Cantona et l'OM, évidemment, vous le savez. Mais parler de l'OM avec un autre Marseillais fou furieux, ce sera dans quelques instants dans l'After.